Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée.
That's one small step for man.
Hey, listen.
It's me, Mario.
Réalité augmentée, les technos à un autre niveau.
Shut up and take my money.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur. Et pour m'accompagner cette semaine, je n'ai qu'un seul comparse et il se nomme Luc Desormeaux. Salut Luc.
Salut Jean-Benoît.
Ben oui, on est seul pour cette semaine. Orphelin de Daniel.
Ben oui, celui que tu peux pas te débarrasser puis qui colle toujours, c'est moi.
Oh, non, c'est ça, exactement. Éventuellement, on trouvera... des personnes
un remplaçant.
D'ailleurs, parlant de remplaçant, parce que Daniel, vous le savez, la semaine dernière, on vous a annoncé, triste nouvelle s'il en est une, que celui-ci quittait le navire de la réalité augmentée. Quoique là, écoute, peut-être des revirements de situation incroyables dans cette histoire-là pourraient revenir éventuellement. Mais on se cherche un comparse pour devenir un collaborateur à l'émission. Ça vous tente, si vous êtes intéressé, vous aimez l'émission, vous vous dites, ben okay, moi aussi je suis capable de jaser de niaiseries et de dire des conneries, des blagues et des fois de l'information pertinente. Mais bon, la dose n'est pas importante là parce que non, vous voyez ça. Le genre du show. Hein? Ouais. Ben, ça vous tente, venez nous indiquer que ça vous intéresse via notre compte officiel sur Twitter, @realitéhog. Via Facebook, on est présent aussi, mais surtout, et ça c'est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer en long et en large pour déposer votre candidature, via notre adresse courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com. C'est tellement simple à retenir, c'est super court comme adresse, on a fait ça concis, tu sais, pour rendre la tâche facile à ceux qui voulaient nous rejoindre. Donc, si ça vous tente, ben laissez-nous votre candidature. Jusqu'à maintenant, on en a eu quelques-unes. Il y a des trucs bien intéressants. Notre choix n'est pas encore arrêté. Alors, si ça vous intéresse, vous avez le goût d'embarquer, ben faites-nous signe. Et qui sait, peut-être que vous viendrez jacasser jeux vidéo, cinéma et technologie avec nous. D'ailleurs, la portion technologique, comme on disait la semaine passée, est pas mal absente depuis le début. Donc, si jamais vous êtes un tripeux là, de techno, vous avez tout le temps les dernières hype patentes, vous essayez des logiciels, des choses comme ça, et que vous avez le goût de partager à ce sujet-là, ben laissez-nous le savoir. podcastrealitéaugmentée@gmail.com. L'avis est lancé. N'hésitez pas à mettre un avis de recherche sur les peintes de lait. Vite, aidez-nous. Cette semaine aussi, on voulait parler, entre autres, d'un autre concours qu'on va lancer, parce qu'on vous l'avait dit la semaine passée, on a annoncé nos gagnants pour le précédent concours et déjà, on avait du matériel à donner pour un autre concours. Vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, on a reçu Martin Brouard de Frima qui nous parlait de son jeu Zombie Tycoon 2 disponible sur PlayStation 3 et eux, ils espèrent pouvoir être disponibles sur Steam. Ils ont besoin de votre aide via le programme Steam Greenlight. Dans le fond, on va voter, on dit oui, moi ça m'intéresse, je trouve que ça vaut, ça a le standard de qualité de Steam, ça m'intéresserait. C'est pas une promesse d'achat, soit dit en passant, même si c'est pas un style de jeu qui vous intéresse, si vous pensez que ça a le calibre, ça a le niveau pour être disponible sur Steam et que ça pourrait intéresser des joueurs, ben allez voter, ils vont en être très très reconnaissants. D'ailleurs, ils sont venus nous parler expressément pour ça. Et lors de son passage, Martin nous a laissé une clé pour la version PlayStation 3. C'est un jeu qui est téléchargeable, soit dit en passant. C'est du contenu numérique. Donc, on a une copie à faire tirer. C'est un concours qu'on n'étirera pas nécessairement énormément dans le temps. On laisse ça aller quand on aura assez de gens puis que l'intérêt aura été soulevé assez pour gagner cette copie-là. Ben, on fera le tirage éventuellement. On se donne pas, Luc, on se donne pas de laps de temps. On laisse ça dans les airs. Hein?
D'ici Noël.
D'ici Noël. Ça serait le cadeau en dessous du sapin. De quoi de numérique, tu sais?
Ouais, un sapin numérique.
Voilà.
Et un jeu numérique en dessous.
Donc,
non,
si ça vous tente
avant
de.
Avant ça, là, mais tu sais.
Ouais, avant ou après. C'est ça, long. Donc, si ça vous tente de participer, ben, encore une fois, c'est notre adresse courriel qu'il faut savoir et qu'il faut utiliser. podcastrealitéaugmentée@gmail.com pour pouvoir participer. Et encore une fois, là, on juste un petit merci en passant pour demander à ce que votre participation soit prise en note et ça va faire la job, il n'y a pas de problème. On ne posera pas de questions quiz ou quoi que ce soit de même. On fait ça facile, on veut simplement vous gâter. Déjà, le fait que vous participiez, ça veut dire que vous êtes à l'écoute. Puis ça, ben, c'est notre récompense, c'est notre pain et notre beurre.
C'est ça. Peut-être juste marquer dans le courriel « J'aimerais gagner Zombie Tycoon 2 ».
Ouais.
Tu sais, parce au moins savoir que vous écoutez puis vous êtes au courant de ce que vous allez gagner.
Parce que moi, je le sais. Hein, je travaille en radio. Hein, et quand tu dis le mot « concours en onde », c'est l'enfer. Il y a du monde qui appelle et font que si tu savais le nombre de fois, Luc, et vous, chers auditeurs, le nombre de fois où est-ce que j'ai répondu à des gens qui m'ont dit « Ah ouais, t'as dit concours, c'est qui a gagné ». Tu sais, c'est parce que non, Twitch gagne pas, ça me tente pas, tu sais. Ben, des gens qui sont de même, qui sont juste comme mot concours, puis hop, participe.
Ouais, ouais.
Il y en a plus qu'on pense, et ça, ben, ça fait suer. Quand t'es organisateur d'un concours, tu veux au moins que les gens aient de l'intérêt pour le produit que tu fais tirer, tu sais. Qu'ils aient pris la peine de participer parce que ça les intéresse, pas parce que, ah, oh, il y a de quoi de gratis, je le veux, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Donc, nommez le jeu. Moi, dans le courriel, nommez le jeu. Ça va être déjà ça.
Bon, qu'est-ce que vous... juste écrire « J'aimerais gagner Zombie Tycoon 2 ».
Voilà, c'est la recette secrète pour pouvoir participer à notre concours. podcastrealitéaugmentée@gmail.com, tout simplement. Et en même temps, ben, faites un petit détour par le Steam Greenlight et allez voter pour Zombie Tycoon 2. L'équipe de Frima là, et Martin Brouard vont vous en être très, très reconnaissants. J'en suis convaincu.
Oui.
Cette semaine, allons-y avec nos premières chroniques. À moins que tu avais d'autres points à l'ordre du jour que tu voulais annoncer avant de commencer les chroniques.
Non, pas vraiment. C'est beau, on peut commencer.
OK, parfait. Donc, allons-y avec la première chronique. Ça sera toi avec un jeu qui est disponible sur Steam et sur XBLA. C'est Sanctum 2 que tu as testé pour nous.
Oui, c'est aussi disponible sur le PlayStation Network.
Ah, OK.
Donc, Sanctum 2, qui est un jeu, ben c'est intéressant, c'est un first-person shooter qui est mélangé avec un genre de tower defense. Ce qu'on fait, c'est finalement, on campe le rôle, on peut camper le rôle de quatre personnages différents, ben vraiment trois personnages différents, deux fois la même fille, puis après ça, on a un robot ou un androïde, puis on a un gars aussi qu'on peut camper. Ils ont des pouvoirs, pas des pouvoirs, mais des capacités différentes. Un est plus résistant, l'autre va faire plus de dommages, donc il va falloir choisir le personnage qu'on veut selon le style de jeu qu'on veut jouer. Mais je vous dirais, ça n'a pas nécessairement une grande incidence dans le jeu parce qu'on peut trouver des armes qui vont faire ce que l'autre personnage, mettons, sa force est causer plus de dommages, mais on peut avoir un fusil puis l'augmenter pour qu'il fasse plus de dommages, ou on peut avoir, on peut gagner des genres de médailles qui vont faire qu'on peut augmenter de 30% les dommages, trois dommages consécutifs sur un ennemi, des choses comme ça. Donc, on peut déjà augmenter nos armes puis nos capacités. Donc, Sanctum 2, l'histoire est bon, c'est pas tellement quelque chose qu'on se creuse la tête à comprendre quand on joue le jeu. On est dans une espèce de sanctuaire, puis on a bon plusieurs tableaux différents quand on avance. Puis le but, c'est tout simplement de protéger le cœur, qui est un genre de le centre névralgique du sanctuaire, qui est comme un générateur d'énergie ou quelque chose comme ça. Et vraiment, tout ce que les bébites qui vont sortir, parce que là, on a affaire à des extraterrestres qui vont sortir de certaines zones. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est aller détruire ce sanctuaire-là. Si vous ne leur tirez pas dessus, ils vont tout simplement, normalement, pas mal passer à côté de vous puis s'en aller vers le cœur puis commencer à essayer de détruire le cœur. Si vous, s'ils passent à côté de vous puis ils s'en vont vers le cœur, ce qui est comme un peu blessant des fois, c'est comme si je n'étais même pas là. Puis là, tu leur tires dans le dos, ben, là, ils vont se revirer puis ils vont venir t'attaquer. Donc, le but, c'est vraiment de protéger le cœur pour pas qu'ils le détruisent. S'ils réussissent à détruire le cœur, on fail ou on réussit pas le niveau. Si on réussit à détruire toutes les créatures avant que le cœur se fasse détruire, on gagne le niveau. Puis après ça, on passe dans un autre tableau qui est fait différemment. Ce qui est intéressant dans Sanctum 2, ce qui est aussi un peu fatigant puis un peu stupide quand tu penses ça stratégiquement, c'est que à chaque début de tableau ou à chaque victoire, parce que chaque tableau va avoir comme quatre vagues d'attaque qui sont de plus en plus sérieuses avec des ennemis de plus en plus forts ou plus d'ennemis qui vont arriver. Donc, souvent, la première vague, c'est un peu pour te préparer à comment le tableau est monté. On sait exactement d'où les ennemis vont venir. Quand on regarde, on a comme le tableau, puis on a exactement, on voit comme en transparence, en travers le mur, d'où la vague d'ennemis va venir. Des fois, elle vient des deux côtés, des fois, elle vient que seulement d'un côté. Alors, mettons qu'on est dans le premier tableau, puis on sait que les ennemis vont venir de la gauche. Bien, je vais préparer ma stratégie en conséquence. Ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir des murs. On peut bâtir des murs, puis si on a assez de ressources, on peut aussi bâtir des tourelles de différentes sortes qui vont soit tirer des lasers, soit tirer vraiment un jet de lumière qui va détruire. On a différentes tourelles qu'on peut bâtir. Donc,
Autrement dit, c'est un genre de tower defense dans lequel, mettons que tu aurais des unités héroïques là, plus fortes que les autres, mais que c'est toi qui la campais cette unité-là.
Bon, c'est ça. Sauf que les tourelles sont autonomes. Donc, on joue pas le rôle des tourelles. On peut pas prendre la possession de la tourelle. Les tourelles sont robotisées. Donc, quand ils voient un ennemi, ils se mettent à tirer dessus, puis c'est tout. On peut pas les contrôler. Ils s'arrangent vraiment avec leurs choses. Mais nous, ce qu'on peut faire, mettons, je vois que les ennemis arrivent de la gauche, je sais qu'ils vont arriver de là, je peux leur construire un mur pour les forcer à suivre un chemin précis, puis bâtir des tourelles de chaque côté pour comme leur tendre une embuscade. Fait que ça te permet normalement de survivre assez facilement. Surtout au début, tu te tiens un peu loin, tu apprends un peu à jouer, tu tires les ennemis de loin, les tourelles se gâtent un peu puis détruisent la plupart des ennemis. De temps en temps, tu vas en avoir un qui va se rendre au cœur, mais t'es normalement facilement capable de les détruire au début, mais ça se gâte à la longue.
As-tu des phases comme de préparation avant les niveaux où est-ce que tu places tes différents éléments ou ça se fait pendant que tu joues?
Non, tu as vraiment la phase, la plupart des niveaux, tu as le temps que tu veux pour faire ça. Mettons, avant de commencer le premier tableau, avant de commencer la première vague, tu ramasses tes ressources, puis là, tu as vraiment à peu près le temps que tu veux pour placer tes choses en sachant bon, où tes ennemis arrivent. Normalement, selon ce que ça semble être toujours, c'est que la dernière vague, tu as moins de temps. Il te donne un temps à louer. Je pense que tu as peut-être 2 minutes pour placer tes choses. Puis après ça, ils s'en viennent vers toi. Puis après ça, tu peux plus placer de tourelles, tu peux plus placer de murs. Tu es en mode défense.
Mais tu repars de ce que tu avais bâti sur les rounds précédents.
Oui, ce qui reste, tu peux augmenter la puissance de tes tourelles, tu peux bâtir des nouvelles tourelles, tu peux bâtir de nouveaux murs parce que à chaque fin de niveau, à chaque fin de vague, tu regagnes encore des ressources pour construire encore plus. Donc, moi, ce que je faisais souvent, c'est que je construisais vraiment un corridor qui faisait que les ennemis arrivaient vers toi. Sanctum 2 est un jeu multijoueur, donc on peut jouer jusqu'à 4 personnes sur la carte. Avec Xbox Live, je me suis aperçu que n'importe qui pouvait embarquer dans ta partie quand il voulait. Donc, si vous voulez jouer seul, commencez votre partie rapidement, puis vraiment aller dans le jeu seulement quand vous êtes prêt à jouer. Parce qu'à un moment donné, j'étais en train de faire d'autres choses. Je me suis dit, je vais aller faire un petit tableau tranquille, tu sais. Puis je me suis ramassé qu'il y avait quelqu'un qui attendait après moi pour jouer la partie. Fait que je me suis dit, tu vas attendre parce que je suis pas prêt. Puis finalement, il a attendu, on a fait la partie à deux quand même. Mais bon.
Est-ce que ça rajoute quelque chose de le faire à deux?
Ben, c'est un peu plus facile parce que t'es à deux pour développer une stratégie. C'est sûr que si tu joues avec un ami puis tu parles, tu regardes, on va placer ça là, toi place-toi là, puis tu fais vraiment ça stratégique, c'est bien. Si tu parles pas avec la personne avec qui tu joues, ça vient un peu plus difficile ou un peu inutile parce que c'est vraiment chacun est de son côté, chacun fait ses choses, puis n'importe qui peut prendre les ressources pour bâtir des tourelles. Si toi, tu avais l'intention de bâtir une tourelle à gauche, puis l'autre bâtir une tourelle à droite, puis il n'y a pas d'ennemi qui vient à droite, mais tu as comme perdu une tourelle. Tu peux retourner, tu peux défaire la tourelle, récupérer les ressources, puis aller la rebâtir ailleurs si tu veux. Mais tu sais, là, c'est un peu comme dire à l'autre, ben regarde, t'as fait ça en cave, je vais le faire ailleurs. J'ai fait ça justement avec la personne que je jouais, puis c'est drôle, le round d'après, il était parti. Mais les ennemis arrivaient tous de gauche, puis ils étaient en train de bâtir des tourelles complètement à droite où il n'y a rien qui se passait. Je sais pas si ça sert à rien d'avoir des tourelles là. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est un jeu qui est super le fun, c'est prenant. L'histoire, bon, comme je disais, on s'en fout un peu, on veut protéger le cœur. Entre chaque tableau, on a des bandes dessinées. C'est vraiment une bande dessinée avec des bulles, puis on peut lire un peu l'histoire qui se passe, mais souvent, c'est bon, ils attaquent de partout. Faut juste résister, tu sais, des choses comme ça.
Ben oui.
Mais c'est cute. Les graphismes sont beaux. C'est un peu cartoon. Je dirais pas cell shading, là, mais ça a un peu peut-être le look, mais pas totalement. Mais c'est intéressant, c'est coloré, c'est le fun à jouer. Il y a des niveaux où on peut trouver des mines par terre, on peut prendre les mines, les changer de place, les mettre directement dans le chemin où on sait que les ennemis vont sortir, puis ça va peut-être faire exploser 3-4 ennemis d'un coup, puis ça va nous sauver d'une mort certaine. Il y a des tableaux où on a comme des Space Marines, des soldats avec nous qui vont nous aider à défendre nos positions. Il y a des tableaux où on est vraiment pris tout seul, puis on s'arrange avec nos troubles. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais que c'était un jeu qui est prenant. Je jouais, puis là, je me disais, ah, un autre petit tableau, tu sais. C'est un jeu, même si c'est un petit jeu XBLA ou PlayStation Network ou sur Steam, qui est, on embarque dans l'histoire, ça vaut la peine d'être joué. Moi, je vous dirais un bon petit 7.5 sur 10, là. C'est un petit téléchargement. Je pense qu'il est-tu 800 points sur XBLA, sur Xbox Live, puis sur Steam, je pense qu'il est comme 12$ ou quelque chose comme ça. Là.
En fait, il n'y a même plus de points en passant sur XBLA. C'est rendu vraiment des dollars. Donc
Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été pouvoir acheter quelque chose. Là. Mais ça, je pense que le jeu est aux alentours de 10 et 14$ dépendant des plateformes. Là.
15$ sur Steam actuellement.
Ah, c'est ça. Fait que c'est bien. Si vous l'achetez directement du site de Sanctum 2, là, le développeur, qui est Coffee Stain Studios. Ouais, Coffee Stain Studios, vous pouvez l'avoir pour
14,99$.
Bon, c'est ça, 15$. C'est ça, 15$. Vous pouvez l'acheter directement sur leur site ou passer par Steam.
De toute façon, c'est le genre de jeu qui doit avoir des deals assez régulièrement.
Oui, puis selon le site, il y a même un DLC. Qui vient de s'ajouter, il y a un nouveau DLC. Là,
bon, le 4-pack, si j'ai bien vu. Là.
Bon, fait que c'est vraiment un jeu qui est le fun. On peut jouer entre amis, jouer ça à 4, peut-être pas nécessairement sur la même console, mais chacun chez eux, jouer ça à 4 ensemble, des amis, ça devrait être assez le fun parce qu'on se développe une stratégie, tout ça, on peut avoir des personnages différents, on peut changer nos armes, on peut se donner des habilités différentes avec selon ce qu'on gagne en jouant. Notre personnage monte de niveau aussi, donc il vient plus fort, plus résistant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci, c'est une gracieuseté de Microsoft. C'est un des premiers jeux que Microsoft m'a envoyé gratuitement pour jouer, le code.
Mm-hmm.
Donc ça m'a coûté que la bande passante. Mais bien amusant, je vous dirais comme 7.5. Allez télécharger ça si vous cherchez un petit jeu amusant à jouer avec, qui prend pas nécessairement trop de temps. Chaque ronde est peut-être... 5-10 minutes, dépendant comment vous prenez de temps pour placer vos choses. Faut terminer le niveau complet, par exemple. Faut terminer les 4 vagues pour que ça sauvegarde.
Okay.
Si vous arrêtez avant ça, vous recommencez. Ce qui est un peu plate aussi, si vous mourrez dans la dernière vague, faut recommencer les 4 vagues pour vous rendre encore à la 4e vague. Ça, c'est peut-être un peu plus plate. Là.
Est-ce que c'est le genre d'affaires qui arrive souvent?
Pas au début, je vous dirais, j'ai passé les premiers niveaux assez facilement, mais quand tu passes à la deuxième section, ça vient un petit peu plus compliqué. Là. Il y a plus d'ennemis. Là, je suis rendu à une place où des ennemis en rentrent de partout, puis sont assez solides. Puis il y a des ennemis qui sont super faciles, là. 2-3 balles sont morts. Il y a d'autres ennemis que si tu vides ton chargeur, c'est le fun parce qu'on a 2 armes, on change d'arme avec Y. Fait que pendant qu'on recharge une arme, on peut changer puis tirer avec l'autre. Puis quand cette arme-là est vide, au lieu de prendre le temps de recharger, on recharge d'arme puis on peut tirer avec l'autre. Les armes se rechargent quand ils sont serrés dans notre inventaire aussi.
OK.
Donc, pas juste si on pèse X pour comme recharger.
C'est un peu particulier. Ça veut dire que la personne a comme plusieurs mains.
Ouais, c'est ça. Ben, ça pourrait ressembler à ça, là. Mais je trouve ça le fun pareil parce que on n'est jamais pris à pas nécessairement pouvoir tirer si on maîtrise le fait de changer d'arme aussitôt qu'on en a plus. Chaque arme aussi a comme son mode principal qui est tirer une balle ou une boule d'énergie ou des choses comme ça. Puis on a chaque arme a aussi un lance-grenade. Donc on peut lancer une deuxième sorte de projectile avec la même arme. Fait que c'est vraiment le fun. Je veux dire, c'est prenant. Puis je te laisse, je m'en allais jouer. Non, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Pour un petit jeu XBLA, j'ai resté surpris. J'avais aucune attente dans ce jeu-là. J'ai pas joué le premier Sanctum. Quand que je me suis dit, ah, tu sais, c'est un jeu Tower Defense, First Person Shooter, je me suis dit, OK. C'est sur XBLA. OK. t'sais, mes attentes allaient vers le bas. Mais j'ai été agréablement surpris. C'est un jeu qui est très, très amusant. Il est beau. Il est amusant. C'est à jouer si vous aimez ce genre de jeu-là.
OK. Moi, de mon côté, je me suis amusé. Non, je dirais pas ça. En fait, Daniel, avant de quitter, il me dit « Ouais, j'ai une couple de jeux, écoute, j'ai un backlog, faut que je fasse des tests, faut que j'écrive. Maintenant que t'as une PlayStation 3, Jean-Benoît, pourrais-tu... Bon, il m'appelle JB, là, mais ça, écoute, on était intimes dans le temps, on était des amis, mais plus maintenant. »
Ouais.
Lâcheux.
c'est ça.
C'est pas vrai, c'est encore un chum. Non, mais tout ça pour dire qu'il y avait un jeu à me faire tester. Fait que là, j'ai fait OK, écoute, je paye pas. Ça peut pas être si pire que ça. Tu sais, de pas avoir dépensé de ma poche, c'est un plus. C'est normalement, quand tu games gratuit, c'est un bonus. Tu sais, ben, pas dans ce cas-là. il m'a envoyé Killer is Dead. Si vous suivez Monsieur Net, vous avez pu entendre Benoît Gagnon en faire la critique la semaine dernière sur les ondes de Musique Plus. C'est un jeu qui vole pas très haut. C'est un beat'em all dans lequel on incarne le personnage de Mondo, qui est un genre de chasseur de monstres venu de la face cachée de la lune. Déjà, c'est bizarre. Le gars a un bras mécanisé, genre robotisé, le bras gauche qui est un bras robotique, là. C'est un genre de cyborg. Il manie un katana et son bras cybernétique peut lancer des projectiles selon les talents qu'on a développés au courant de l'aventure. Et on doit affronter justement, là, c'est ça, des ennemis qui proviennent de la face cachée de la lune. Vous allez voir, là, l'histoire, c'est pas mal ça. Et c'est déjà bien en masse parce qu'on jacasse longtemps dans ce jeu-là pour pas dire grand-chose.
OK.
C'est un jeu qui nous est développé par Grasshopper Manufacture Inc. Ça vous dit probablement rien si je vous dis ça. Mais si je vous parle de Suda 51, ça par exemple, ça devrait vous allumer une petite cloche. Si vous le connaissez pas, je vais vous donner quelques titres qu'il a fait. Killer 7, No More Heroes, Shadow of the Damned, Lollipop Chainsaw. Tu sais, le gars, il a quand même quelques bons jeux derrière la cravate, du moins quelques jeux marquants. Et ce qu'on remarque, c'est que ce bonhomme-là, de son vrai nom, Goichi Suda, 51 doit être son numéro chanceux, je suppose. Ce gars-là, il est bon pour créer des univers farfelus et nous raconter des histoires à l'intérieur de celui-ci. Il est en mesure habituellement de générer de quoi de complètement farfelu, mais qui va se tenir si on embarque dans son univers. Du moins, ça va nous... Tu sais, le monde, la thématique, la façon de procéder va nous amener à développer une nouvelle façon de jouer, de revoir l'univers du jeu vidéo différemment. C'est un genre de Van Gogh des temps modernes du jeu vidéo. Mais si on se rappelle l'histoire de Van Gogh, il a fini par s'arracher une oreille par surplus de folie, tu sais, au courant de sa vie. Et c'est probablement Killer is Dead, le surplus de folie de Suda 51.
Le bout d'oreille.
Le bout d'oreille de Suda 51, arraché à coups de katana. Suda 51, donc, un créateur que l'on reconnaît dans l'univers du jeu vidéo, mais qui a ses admirateurs, mais aussi ses détracteurs, on va se le dire. Et c'est pas avec ce jeu-là qu'il va aller se chercher un fanbase plus grand. D'ailleurs, Lollipop Chainsaw, à part pour son personnage principal qui est devenu mythique assez rapidement, parce que en cosplay, ça fait toujours son charme. Et là, je parle bien sûr de la jolie demoiselle en petite jupette qui tue des zombies à coups de chainsaw, qu'on voit toujours là, dans les comics Comic-Con, les événements geek, il y a toujours une fille qui se déguise en ça. C'est un personnage qui est devenu rapidement mythique, même si le jeu est très, très ordinaire. Suda 51, comme je vous dis, il est reconnu pour le bon et le moins bon de la patente. Et Killer is Dead, c'est pas du bon côté de la balance.
Ça n'en prend.
Ah oui, des fois. Écoute,
ça prend de la cochonnerie pour te faire,
apprécier,
te
le
faire
bon.
Apprécier le restant.
Hey boy. Je vais y aller avec le point positif du jeu. J'ai bien
dit le point.
Le point positif, c'est qu'une fois qu'on est lancé, c'est un beat 'em all. On va affronter des vagues d'ennemis qu'on va retrouver à certains endroits dans les différents niveaux. Une fois qu'on est lancé là-dedans, au corps à corps, ça va bien. On a une belle dynamique, ça va vite. Les gens qui sont des amateurs de beat'em all vont se retrouver dans un terrain connu. Ça, c'est la partie le fun. Quand on est au corps à corps, ça va bien. Le problème, c'est qu'on a des parties de shooter aussi. Le problème, c'est qu'on a aussi besoin de faire des simili casse-tête, et je mets ça entre guillemets. C'est long avant d'atteindre les différentes phases de gameplay de beat'em all. Tout ça pour nous mettre des embûches totalement incroyables qui vont faire que, finalement, on n'aura pas tant de plaisir. Moi, écoute, j'y ai joué pendant une semaine. J'y ai mis à peu près une quinzaine d'heures. Je vous le dis, je ne l'ai pas passé. Okay? Je devrais, mais j'ai vu assez pour pouvoir me faire une opinion. Une opinion assez solide pour pouvoir en faire la critique. Là, je ne penserais pas qu'à la fin, je serais comme « Ouh, je me suis habitué, puis waouh, c'est donc bien hot. » Non, pas à ce point-là, je ne penserais pas. Donc, allons-y avec les points négatifs et débutons premièrement avec la première chose qui nous frappe quand on décolle le jeu, les graphismes. On nous présente un graphisme qui m'a fait penser, dans mes cours d'informatique, genre secondaire 2, secondaire 3, un de mes profs, Monsieur Leclerc, soit dit en passant, c'était le père d'un de mes chums, que je salue, s'il nous écoute, je ne penserais pas, mais peut-être. Donc, bonjour Monsieur Leclerc. Il nous a fait faire des exercices avec genre PowerPoint, où est-ce qu'on devait réussir à dessiner, mais sans faire de ligne de contour, parce que PowerPoint, c'est pas fait pour créer des formes avec des contours, c'est vraiment fait pour faire des bouts de formes, genre des losanges, des carrés, des choses comme ça, mais pas de contour. Il fallait créer un visage de même, genre. Donc, y aller, prendre une photo, puis réussir à reproduire les ombres avec des carrés ou des formes géométriques en noir, puis après ça, la peau de l'autre de couleur peau pour réussir à créer un visage ainsi. Et c'est un peu ça comme graphisme. On est dans le très, très sombre. Il n'y a pas de contour dans les designs de Killer is Dead. Il n'y a pas... on dirait que tout est en teinte. Tout est en dégradé de couleur.
OK.
C'est assez particulier et c'est pas nécessairement flatteur. En tout cas, moi, ça m'a pas émerveillé. Je vous invite à aller voir des images via votre engin de recherche favori. Je sais que tout le monde préfère Google, donc utilisez celui-là.
Parce que Google, c'est ton ami.
Ben voilà. Donc, allez voir des images, vous allez comprendre ce que je veux dire et vous allez voir, en tout cas, si vous, ça vous atteint c'est de la bonne façon, tant mieux. Moi, j'ai trouvé ça là vachement dérangeant, surtout les premières heures, les premières 4-5 heures, je comprenais pas comment qu'on arrivait à faire ce genre de graphisme-là. Je comprenais pas le pourquoi qu'on avait choisi ça. C'était vraiment dérangeant à la limite. Et on nous amène un côté extrêmement gore. Quand on tue des ennemis, ça splash le sang. C'est assez intense.
Ouais, je suis en train de regarder des images. Je vais dire comme toi. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de litres de sang que ça dans un corps humain.
Non, c'est ça. Et c'est vraiment comme toutes des splashes. C'est incroyable. Écoute, le monde, ça jute le sang. C'est violent. C'est un jeu qui est extrêmement lent aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, beaucoup de références au sexe, beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas. Moi, tu sais, Luc, je suis un amateur, je suis un spécialiste pour trouver qu'est-ce qui marche pas dans un film. C'est tout le temps ça qui m'accroche. Et dans ce jeu-là, à un moment donné, je me suis dit, faut que j'arrête. Je vais mourir. Le cerveau va m'exploser de ma boîte crânienne. Va vouloir sortir et aller se pendre. Il y a tellement des affaires qui fonctionnent pas dans ce jeu-là, côté histoire. On arrive à un moment donné, l'ennemi, c'est un gars qui a volé les oreilles d'une fille. En partant, ça part bien, bien mal. Il a volé son sens de l'écoute, ok? C'est, déjà, ça part bizarre. Et le gars, il est comme caché dans une grosse, grosse tour à la Sony ou je sais pas trop quoi, là, Virgin, de producteurs de musique de ce monde et d'équipements électroniques. Puis là, faut que tu montes en haut, genre des milliers d'étages à parcourir. Et il y a de l'équipement, tout ça. Et à un moment donné, on arrive, on est dans la bâtisse, on est dans pour rentrer dans celle-ci. Et tout d'un coup, whoop, t'as une amie qui arrive avec sa moto, shoot 2-3 ennemis, puis elle s'en va. Un moment donné, tu es sur la face cachée de la lune, tu t'en vas là-bas pour affronter le boss final, parce que tu l'affrontes à plus qu'une occasion. Quand tu décèdes, t'as ton bras droit qui est une jeune adolescente prépubère en petite jupette d'écolière qui capote beaucoup trop sur toi là, arrive puis elle te fait un massage cardiaque, genre elle te saute dessus jusqu'à temps que le cœur te reparte. Ben quand tu tombes dans les pommes, t'as plus de vie, même si au début de l'émission elle dit j'aimerais tellement ça venir avec toi sur la lune, et que tu y réponds non, on ne peut pas amener deux personnes sur la lune, tu dois rester ici, ben même quand tu tombes dans les pommes, elle vient te réveiller. Je comprends pas comment elle réussit tout d'un coup à se téléporter Terre-Lune de même pour venir te soigner. En tout cas, mais c'est pas grave. Rendu là, hein? Rendu là, c'est pas le plus gros de mes soucis dans ce jeu-là. Donc, des incongruités de même, il y en a à la tonne. Premier niveau qu'on affronte, on se retrouve dans un univers à la Alice au Pays des Merveilles. Imagine, là, t'as vu les graphismes, mais la moitié du décor à l'envers, tout croche, débalancé. En partant, là, ça commençait mal là, pour construire un univers qui se tient. Là, c'était déjà pas mal compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, c'est ça. Je t'ai dit, phase de combat intéressante quand on est au corps à corps. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, tu as deux types de combats. Tu as les combats au corps à corps avec ton katana et tu as, avec ta main cybernétique, la possibilité de lancer des projectiles. Le problème, c'est que tu dois passer de l'un à l'autre. Et il y a des gros, gros, gros problèmes de caméra dans ce jeu-là. Elle est beaucoup trop proche de toi. Dans un beat'em all, tu sais que les ennemis arrivent de tout bord, tout côté. Donc, tu veux avoir une simili-vue d'ensemble, un peu au-dessus de toi pour pouvoir voir d'où les ennemis proviennent, pour pouvoir diriger tes attaques. Là, on est à côté au niveau des fesses du gars. Donc, on voit pas la moitié de l'écran quand on est en train de se battre, plus quand les ennemis sont proches, ben ça rajoute du stock dans l'écran. On voit plus rien, fait que tu finis par juste taper ces boutons de la manette. Tu fais tes combinaisons pour attaquer, mais tu sais pas qui t'attaque, tu sais pas dans quel ordre, tu sais pas où tu frappes, mais t'espères que ça marche. Donc, on se croise les doigts. Et en plus, quand tu passes dans la facette tir, parce que tu as certains ennemis, tu vas attaquer au corps à corps, puis là, tu as des ennemis qui vont être au loin, tu vas vouloir les attaquer au loin d'avance ou ils sont au plafond ou peu importe. Là, tu dois passer de l'autre. Mais quand tu as une caméra aussi proche que ça, essaye de tirer sur quelque chose qui est à 100 pieds de toi, tu sais. Quand tu n'as pas de vue, c'est infaisable. Puis passer de l'un à l'autre, faut que tu gères ta caméra pour essayer de la tasser, pour voir ce qui se passe. Puis la caméra, ben, c'est quand tu payes sur le piton pour activer le tir à distance, ça devient ta mire. Fait que tu sais jamais où est-ce que tu es en train de mirer, où est-ce que tu vas finir par tirer. Puis là, ben, faut que tu te positionnes. Puis pendant que tu positionnes ta mire, parce que ça se peut que l'ennemi se soit déplacé. En fait, c'est sûr, il va se déplacer. Là. Il n'est pas là statique à attendre que tu tires dessus. Ben écoute, tes autres ennemis qui sont au corps à corps viennent te rejoindre, fait que finalement tu finis par te faire attaquer de tous bords, de tous côtés. C'est assez cacophonique. Tu sais, ça sort de partout. C'est juste trop.
Ouais.
Et pourtant, il n'y a pas tant d'ennemis que ça. Si j'ai vu des séquences où j'avais 5 ou 6 ennemis contre moi à la fois, c'est beau si je l'ai vu une ou deux fois survenir. Donc c'est pas en raison du nombre d'ennemis que c'est dur. C'est en raison de la façon que le jeu nous est présenté, de la façon qu'on doit le jouer. C'est ça qui rend la tâche ardue au joueur qui va d'une mésaventure sur ce titre-là. Donc, beaucoup de pépins sur ce jeu-là. J'ai parlé de... On affrontait le boss à quelques occasions dans le jeu. Le boss est assez mythique, merci. Il est... Comment je te dirais ça? Il est habillé. Puis là, je veux pas dénigrer la communauté homosexuelle, c'est vraiment pas le cas. J'ai des amis homosexuels, on dirait que je suis le Doc Mayo qui dit qu'il y a des amis noirs. j'ai pas de problème avec l'orientation sexuelle de personne, vous avez le droit. Mais dans la parade gay, on voit certaines personnes se promener avec des genres de straps en cuir, tu sais, c'est ça leur habit, des anneaux de métal, tu sais, un peu sado-maso, c'est bon. Ils ont le droit, c'est leur orientation sexuelle, c'est leur fun. Moi, ça impacte rien dans ma vie, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Mais notre boss final, il est habillé de même. Il y a juste un genre de costume bikini en strap de cuir, attaché avec un anneau au niveau des abdos. Et dans le dos, même chose, à peu près au même niveau. Puis c'est comme 6 straps de cuir qui se rassemblent vers ces anneaux-là. 6, en fait, 3 au-dessus des épaules et 3 entre les jambes pour faire un genre de simili-bikini. Tu vois le genre?
Mm-hmm.
Et ça, c'est notre ennemi. Et comme si c'était pas déjà assez, en plus que monsieur est quasiment tout nu avec des straps de cuir, c'est pas des straps de cuir noirs. Non, son couleur dorée. Parce que monsieur est hot avec une genre de couronne de roi. En tout cas, c'est assez bizarre. Merci. C'est
vraiment... Y a-tu un iPhone 5S Gold avec ça?
En tout cas, il ne l'a pas montré. Ah,
okay.
Parlant d'incongruité, soit dit en passant, je ne sais pas comment on se rend sur la Lune. On n'a pas de vaisseau. On arrive sur la Lune et tout ce qu'on a comme équipement d'astronaute, c'est un casque. Et on finit par l'enlever et on respire sur la Lune. En tout cas, ça, c'est rendu là. C'est pas le plus gros des problèmes. Une des choses que j'ai remarqué, notre héros n'est pas capable d'ouvrir des portes. Fait que si tu veux finir le jeu, si tu t'appelles un boss là, dans le jeu-là, tu fermes les portes, puis merci, bonsoir, tu le laisses crever de faim d'une pièce.
T'es correct.
Ouais, t'es correct. Mais bon, à chaque fois que tu tues tous les ennemis dans une pièce, t'as toujours une porte qui va s'ouvrir. Mais même si la bâtisse est grosse, il y a des couloirs et des couloirs et des couloirs et des centaines de portes, tu peux pas rentrer dedans. Fait que ton enquête est assez facile pour trouver où l'ennemi. Il est là où est-ce qu'il n'y a pas fermé la porte.
OK.
Fait que c'est le côté enquête pour savoir...
Vas-y, Sherlock.
Oh, ouais, c'est ça. Suis les petits morceaux de pain par terre pour retrouver ton chemin. C'est pas mal ça. Aussi, dans les trucs, je t'ai dit que j'ai jamais vécu de séquence avec énormément d'ennemis. Et malgré tout, même si on n'a pas beaucoup de personnages qu'on affronte, il y a des baisses de frame rate, mais là, énormes. Il y a des lags dans l'écran. On dirait qu'il manque d'images par seconde pour afficher ce qu'on a de besoin. Je pense que c'est dans la façon que c'est codé que ça vient ça. Je pense pas que ça soit tellement hot comme jeu puis rempli que la PlayStation 3 est pas capable de le desservir. Là. Je pense que c'est une codation de jeu qui en arrache un peu. Là.
Ouais.
Et écoute, assez que Mané, je suis en train de jouer, ma blonde est en train de lire à côté, puis là, je disais, hey, chérie, regarde ça. Là, elle dit, mais voyons donc, c'est normal que ça lag de même, tu sais, que ça accroche. Je dis, non, mais ça le fait pareil, tu sais. Donc, voilà pour ce jeu-là. Si vous avez quelques dollars à dépenser pour vous offrir un beat'em all, que vous êtes un amateur de ça, oubliez ça. Passez pas ce jeu-là. C'est à oublier. Et là, ben, je vous ai même pas parlé des missions Gigolo. Gigolo, okay. Tu sais c'est quoi, Luc?
Non.
C'est un homme qui courtise les demoiselles, qui en fait son gagne-pain. Ou un Gigolo, c'est un cruiseur éternel de gentes dames. Eh bien, dans ce jeu-là, on a des missions Gigolo. On se retrouve dans un bar, que ce soit à Shanghai, que ce soit à New York, que ce soit... Écoute, peu importe c'est où... On se ramasse dans un bar, il y a une jolie demoiselle, et on se doit de prendre notre courage à deux mains pour aller la séduire. Pourquoi? Elle ne sait pas. OK? Il n'y a pas vraiment de raison, si ce n'est que ça va nous donner un petit bonus que je te réexplique après. OK? On va devoir donc, quand la fille nous regarde, la regarder dans les yeux, mais quand son regard se détourne, regarder ses attributs. OK? Je te le jure, là, la première fois que je suis arrivé là-dedans, là, ma blonde était à côté de moi. On a passé 15 minutes à essayer de trouver comment ça marchait. Pour comprendre que fallait que tu zoomes avec une gâchette, puis fallait que tu vises les différentes sections du corps de la fille, les seins, les hanches, les fesses et les yeux pour les différentes ondes, pour augmenter ce qui est à ta gauche, un genre de graphisme de ta tête au rayon X. Et là, tu as une barre rouge comme si tu augmentais ta dose de courage. C'est ça qu'il faut remplir. Il faut remplir sa dose de courage. Et de l'autre côté, sur la droite de l'écran, on a genre le comment je te dirais ça, si la fille se doute de ce que t'es en train de faire, genre quand tu la regardes ailleurs que dans son beau visage. Donc, faut que tu gages entre les deux pour être en mesure d'augmenter ta jauge de courage, mais de pas te faire sacrer une claque dans la face par la fille en étant un effronté qui ne fait que regarder ses parties intimes, t'sais. Ses grosses qualités, t'sais. Parce que oui, les filles là-dedans ont des grosses qualités. Vous êtes des amateurs.
Comme dans la plupart des jeux vidéo.
Voilà. Écoute, ce jeu-là est compliqué. Ce mini-jeu-là est compliqué. On l'a à plusieurs reprises. Et en plus, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que Mondo, notre personnage principal, a un don incroyable dans la vie. Quand il va dans un bar, il ne spot que des fabricants d'armes. Qui sont sexy en passant, en plus, c'est tant qu'être là. Je sais pas comment ce qu'il fait, mais toutes les filles qui crousent, ils donnent des armes bonus.
OK.
Et fouille-moi, là. Tu sais, je sais pas comment ce qu'il fait pour savoir que elle, je sais pas, les doigts bruns, la fille a des muscles. Je ne sais pas comment ce qu'il fait pour déterminer que cette fille-là, qui l'attire, qui la trouve belle, est armurière. Mais écoute, à tous les coups, ça fonctionne. Elle lui donne toujours une arme bonus. Et si t'as pas tes armes bonus, c'est même plus un bonus, c'est des armes de meilleur niveau, ben écoute, tu peux pas passer les tableaux subséquents parce que le niveau de difficulté va devenir trop élevé. Puis tu vas avoir tes armes de base qui, elles, ne sont pas assez puissantes pour pouvoir leur faire du dommage. Fait que t'as pas le choix d'aller cruiser dans les bars. Fait que tu sais, moi, écoute, ma blonde, elle disait « Ah ouais, me semble que t'as pas le choix. Chérie, je te le jure! »
Je fais ça pour la science.
Ben oui, je fais ça pour le show. J'ai pas le choix. Et c'est vrai, en plus, si seulement c'est une excuse, mais c'est vrai. Et en plus, c'est des missions tellement plates. Sincèrement, là, je vois pas le pourquoi, si ce n'est que pour attirer le jeune homme prépubère qui a, soit dit en passant, même pas le droit d'avoir accès au jeu. Je pense que c'est classé, genre 17 ans et plus, là, on a fait la même.
Ouais, sûrement, non, c'est qui sort de
18 ans et plus. Je sais pas qui qu'on visait que ça. Si à 18 ans, là, ça te prend un jeu vidéo comme ça pour te stimuler, écoute, t'as peut-être des choses à découvrir dans la vie, jeune homme. Je dis ça de même, là. En tout cas, moi, j'ai 26 ans, je suis peut-être rendu vieux, la sagesse en moi me dictait que j'avais pas besoin de ça. Mais j'avais pas besoin de ça du tout pour que le jeu soit appréciable ou non. Puis en plus, ben écoute, c'était même pas le fun. Au moins que ça avait été le fun, ben non. Donc voilà pour ce jeu-là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Si après cette critique-là, t'as encore le goût de jouer à Killer is Dead, mon ami, va chercher de l'aide.
Essaye d'autre chose.
Sincèrement, encore une fois, je le répète, t'as peut-être des choses à apprendre dans la vie si t'as encore le goût de jouer à ça. Tu te découvriras peut-être éventuellement des tendances sadomaso. C'est peut-être ça. T'as peut-être le goût de te faire mal pour mieux apprécier le reste. Peut-être. Et ça, c'est à tes risques et périls. C'est toi qui décides, le grand, tu sais. Moi, je ne fais que te donner mon opinion.
mais je veux dire, c'est quand même le jeu à jouer si tu veux apprécier Duke Nukem Forever.
Oui, il y a certains avantages. Faut juste creuser plus que d'habitude pour les trouver, tu sais.
C'est ça.
En tout cas. Donc, voilà pour... Je pense que j'en ai assez parlé. Je donne-tu une note ou on n'a pas de besoin?
Je sais pas, ça fait-tu un bon souveur ou...
Ah, écoute, moi j'ai eu un téléchargement.
Ça peut même pas être un souveur.
Non, c'est ça. Ça fait juste bloquer des gigs dans mon disque dur de PlayStation 3.
Ouais.
Je l'ai effacé, hein, by the way.
Ah, ok, moi.
Oui, là, c'est assez, là. Écoute, éventuellement. La torture, on en a assez. Je disais à ma blonde, si je reviens à elle, parce que je l'ai vécu avec elle, ce jeu-là. D'habitude, elle ne me suit pas dans mes aventures de gaming, mais cette fois-là, elle avait du fun à me voir me torturer parce que je disais, chérie, là, je joue pas, là. Je travaille. Sincèrement, je travaillais à jouer au jeu.
Ouais, puis t'es même pas payé pour le faire en plus.
Même pas. En tout cas, je fais ça pour vous autres, les boys et les girls qui nous écoutent. Hein? Ouais. Je suis fin, hein?
Des fois, il faut souffrir.
Ah oui, je vais te donner pour la cause. Donc, écoute, je vais y aller avec, mettons un 4. J'ai pas vécu de bug. Puis, au corps à corps, quand on est lancé d'un beat'em all, quand il y a juste du corps à corps, c'est correct. Oh, tu sais, les combos sont compliqués, mais tu sais, quand tu pitonnes juste donner des coups de katana avec un rythme effréné et des ampoules au pouce, tu peux survenir et réussir à passer à travers les tableaux. Donc, pour ça, parce qu'il roule le jeu sans trop de bugs, je vais y aller avec un 4.
OK. Puis parce qu'il s'est téléchargé, puis il s'est installé.
Voilà.
Puis c'est pas stiné quand tu l'as supprimé non. de ta PlayStation.
Ah, s'il avait fallu qu'il me dise pourquoi vous le supprimez, on a besoin d'une raison. Et là, j'aurais été en tabarouette, en tout cas.
Ben voyons, le grand, pourquoi tu fais ça?
Oui, oui, on ne comprend pas.
Le c'est qu'il peut même pas t'appeler le grand.
Non, c'est vrai. Ben. En tout cas. Donc, un 4.
T'es généreux quand même.
Ah, puis tu sais, ça aurait pu être un 3. Ou un 2. En tout cas, ouais. Je me sens faim quand même.
À ne pas. Et tu dis-tu à Daniel, pas merci?
Ben, pas merci. Daniel qui me dit, je pense que c'est un cadeau de grec. Oui, oui, c'est un cadeau de grec. Je te déteste. Quel cadeau de départ.
C'est ça. Mais je suis content de parler de PS3. Comme ça, il me l'a pas donné à moi.
Oui, c'est une des grosses forces de ne pas avoir une PlayStation 3. Là.
Ouais,
tu ne risques pas de tomber sur ce jeu-là, qui est d'ailleurs une exclusivité sur PlayStation 3. Je pense que le contrôle de qualité n'a pas, pas été atteint pour la gang de Grasshopper Manufacture Inc. Suda 51. Celle-là, il l'a échappé, pas pire.
Ouais, ça arrive des fois. C'est pas tous les studios qui font des. Ben, qui font tout le temps des bons jeux. Des fois ça se plante.
Ah, des fois. Luc, t'avais le goût de nous parler en terminant d'un nouveau petit jeu que t'as. Que tu as téléchargé sur. C'est sur ta tablette que tu as téléchargé ça, le nouveau Angry Birds Star Wars 2. Et tu me disais que franchement, tu étais étonné. C'est encore meilleur que le premier.
Oui, ben j'ai aimé la manière qu'on a avancé un peu dans la jouabilité. En passant, ton Killer is Dead est disponible sur Xbox 360 aussi. C'est pas une exclusivité. En tout cas, selon Wikipédia, il est disponible. Donc, attention, personnes qui ont une Xbox, vous pourriez le télécharger par erreur.
Oui, oui. En tout cas, écoute, je pensais que les joueurs. En tout cas, les joueurs PC, de ce qu'on voit, sont sauvés. C'est au moins ouais. ça. Wii U aussi.
Ouais,
vous êtes gagnants.
Il y a des versions physiques et il y a des versions téléchargeables, ça a l'air, parce qu'il y a une version Blu-ray et une version DVD-ROM pour Xbox. Donc, en tout cas, faites attention à ça.
Oui, touchez pas avec ça, pas tout.
Non, c'est ça. Donc, Angry Birds Star Wars 2, qui est disponible à peu près partout, sauf BlackBerry, qui en lui-même ne sera peut-être plus disponible bientôt. Mais bon, c'est disponible sur iOS, Android, Windows Phone, même sur le Amazon Kindle. Donc, c'est disponible pas mal partout. C'est 99 cents US partout, donc 1,9 à peu près canadien si vous le téléchargez. Bon, c'est la suite d'Angry Birds Star Wars, mais comme je disais, on a changé un peu la jouabilité. C'est que dans Angry Birds Star Wars, on était les oiseaux et on se battait toujours contre les cochons. Dans Angry Birds Star Wars, chaque niveau a les deux côtés. Donc, on peut choisir le côté des oiseaux ou le côté des cochons. Et on fait les deux là, à notre guise, on fait les deux côtés pour, je veux dire, jouer le jeu complètement. Là. Comme j'ai fini tous les tableaux côté oiseau, puis après ça, j'ai refait tous les niveaux côté cochon. C'est pas les mêmes niveaux. Les niveaux sont différents. Les niveaux sont plus empire quand on est côté cochon, sont plus Jedi quand on est côté oiseau. Mais c'est la même jouabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas une jouabilité différente. On n'essaie pas de construire nos défenses pour pas se faire tuer par les oiseaux. Quand on est les cochons, on se lance sur la base des oiseaux, pareil comme les oiseaux se lancent sur notre base. Ce qui est intéressant, on a des nouveaux personnages. Donc, je vais vous les passer un par un. On a Anakin Skywalker, Chewbacca, Obi-Wan, Padmé, Princesse Leia, Qui-Gon Jinn, Mace Windu. On a Yoda, on a Han Solo, on a Capitaine Panaka, Pilote Rebelle, des enfants Jedi, là, des Jedi, des petits Padawans. On a C-3PO, R2-D2, puis on a Jar Jar Binks. Et c'est la seule fois de ma vie que je vous dirai que Jar Jar Binks est cool. Je vous reviendrai pourquoi. Dans les cochons, on a Count Dooku, Darth Maul, Général Grievous, Jango Fett, les droïdes Deka, ceux qui ont vu les films qui n'existent pas, là, les trois premiers de la prélogie.
Oui, les trois qui n'existent pas, oui.
C'est les robots qui roulent, puis à un moment donné, qui se déploient, puis qui se mettent à tirer partout. On a les droïdes de guerre, on a Zam Wessel, qui était une des chasseuses de primes, celle qui changeait de face. On a les pilotes de Fighter Thai, de chasseurs Thai. On a Dark Vader, qui s'appelle Lord Vader, qui est cochon. Qui, en anglais, c'est le fun, ça dit Come to the Pork Side au lieu de Dark Side, le côté cochon. Puis on a le roi cochon là-dedans, c'est l'empereur Palpatine. Ils ont chacun des pouvoirs différents. L'empereur, il lance de l'électricité. On a Count Dooku qui peut lancer son sabre, puis il revient vers lui. Darth Maul a un sabre double. Jango Fett, il lance un missile. On a des pouvoirs différents selon les oiseaux ou les cochons qu'on a. C'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup le nouveau gameplay, surtout que jouer les cochons a apporté. Ça rallonge la durée de vie du jeu, parce qu'avant, on faisait toutes les missions d'oiseaux, puis... mais c'était fini. Là, on peut refaire avec les cochons. Là où je disais que Jar Jar est cool...
On veut savoir!
Le pouvoir de Jar Jar est vraiment cool, parce que ceux qui ont vu encore dans la série de films qui n'existe pas, La menace fantôme, qui aurait dû être un film fantôme, mais bon, Jar Jar, à un moment donné, sort sa langue pour aller chercher des pommes, puis on voit qu'il y a une langue super longue.
Yoshi, là...
Ouais, genre Yoshi. Dans Angry Birds Star Wars, le pouvoir de Jar Jar, c'est quand on lance dans les airs, on peut pointer où on veut qu'il tire sa langue, puis il peut s'agripper à des objets. Donc, mettons, je le lance, j'agrippe une caisse d'explosifs. Ben, en faisant tomber la caisse d'explosifs sur la base des cochons, ça explose. Ou la base des cochons est montée assez haute, mais je suis en branlante. Je fais toucher sa langue à la base de la tour. J'enlève le dernier bloc en dessous et tout s'écroule. Il y a vraiment un pouvoir super le fun. Même à un moment donné, je me suis lancé. J'ai lancé sa langue sur une caisse de TNT. Puis je me suis aperçu que la caisse de TNT, pour une raison inconnue, était collée après la roche. Il n'y avait aucune manière que je pouvais l'enlever. Puis là, je regardais mon Jar Jar, puis là, il faisait comme un tour alentour, comme si sa langue était collée au milieu. Puis là, ça faisait comme si c'était les espèces de roues là, dans les parcs où tu
une
tournes,
fronte.
Puis là, ça tourne. Là, il faisait juste tourner alentour de la caisse. La caisse est comme au milieu du tableau. Puis lui, il tournait alentour. Il faisait vraiment le tour, sa langue collée toujours au milieu. Puis là, lui, il faisait le tour, puis... Là, je le laissais aller, je le regardais. Je dis, à un moment donné, il va perdre son momentum, puis il va juste, tu sais, pendre vers le bas. Non, il tournait. Puis là, tu repèses sur l'écran, puis là, il lâche, puis là, il peut tomber. Fait que tu peux t'en servir deux fois. Tu peux t'en servir pour attirer une caisse.
Jar Jar Binks ne connaît pas l'inertie. Non.
Non, c'est ça. Il bouge tout le temps. Il n'arrête pas de nous écœurer depuis le début des films. Mais bon, fait qu'on peut tirer une caisse avec notre langue, puis en plus, un coup que la caisse est tombée, on peut relâcher la caisse, elle a continué à tomber, puis Jar Jar lui va aller dans la direction où il était rendu. Donc, on peut faire tomber la caisse de TNT sur une partie de la tourelle des cochons, puis après ça, lâcher Jar Jar pour qu'il aille tirer, il aille tomber sur une autre partie qui va la faire s'écrouler. Donc, c'est vraiment le personnage qui est le plus le fun à jouer, je dirais. Puis, je déteste de dire ça. Mais il est le fun dans ce jeu-là. Mais non, j'ai vraiment aimé. Et on a des niveaux aussi bonus. Quand on débarre certains niveaux, on peut retourner. On trouve des objets. Ce qui est le fun aussi, ils ont rajouté... Bon, dans les autres jeux, il y avait aussi des objets. À un moment donné, il y avait des œufs dorés à trouver, puis ça débarrait des niveaux de plus. Dans ça, on a plus que ça. On a des armes qu'on va trouver. On a des cartes. Parce que sur la carte, on a comme... le chemin principal, puis on va avoir un chemin, un détour aussi. Si on réussit à ramasser la carte qui est dans le niveau, on peut aller faire deux niveaux de plus qui sont des niveaux comme bonus, là, mais seulement si on réussit à ramasser la carte. Si on a les armes aussi qu'on ramasse, ça nous ouvre une autre section au début du jeu dans la carte principale quand on voit quel niveau qu'on veut faire. On a aussi des niveaux bonus là qu'on déborde en trouvant des armes, des caisses dans le jeu. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de terminer le niveau pour garder ce qu'on a réussi à débarrer. Donc, si vous dépensez, je ne sais pas moi, deux oiseaux pour aller chercher la caisse qui va vous débarrer la carte pour les deux niveaux qui sont au-dessus, qui sont comme un passage secret, ben si vous le ramassez, vous n'êtes pas obligé de finir le niveau avec, mettons, les deux oiseaux qui vous restent pour être capable de le garder. Un coup que c'est débarré, c'est débarré. Vous pouvez sortir au niveau principal, puis vous pouvez aller passer l'autre, à un autre niveau si vous voulez. Là. Donc, c'est le fun pour ça. Si on ramasse quelque chose, on le garde. Il y a des jeux comme l'œuf doré dans les autres jeux d'Angry Birds. Il fallait absolument gagner le niveau, si je me rappelle bien, pour être capable de le garder. Tandis que là, c'est pas le cas.
Bon, ça améliore pour la facilité un peu, là, pour les jeunes surtout. Ça devait devenir assez compliqué là, dans les niveaux plus lointains.
Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Bon, le premier niveau, on se retrouve dans la menace fantôme, là, le premier des films qui n'existe pas. Puis après ça, on s'en va sur Tatooine, puis on a des niveaux différents. Là, présentement, il y a deux niveaux d'ouvert. C'est l'invasion de Naboo et Escape to Tatooine. Donc, se sauver sur Tatooine. Puis on a les niveaux bonus qui sont les niveaux récompenses qu'ils appellent. Qu'on a là aussi un côté oiseau, un côté cochon, donc côté Jedi, côté sombre. Puis il y a d'autres niveaux qui s'en viennent bientôt. Là, il y en a un qui s'est marqué Coming Soon. Donc, ils vont nous mettre ça, d'autres niveaux bientôt. J'espère juste qu'ils ne feront pas comme avec Star Wars, Angry Birds Star Wars 1, puis nous charger un autre 99 sous pour débarrer un autre niveau dans le jeu. J'avais pas tellement apprécié. Peut-être qu'ils ont appris de leur erreur. Ils ont l'air à vouloir faire ça. Gratuitement, là, présentement, nous rajouter des choses dans le jeu. Parce que l'autre, dans Angry Birds Star Wars 1, il y avait ce qu'il appelle Path of the Jedi. Je me rappelle bien qu'il était la partie. Fallait rajouter un autre 99 sous pour débarrer ces niveaux-là. Puis c'était une couple de niveaux de plus. Là. C'était comme un peu plate. Celui-là, ils n'ont pas l'air d'avoir fait ça. Mais non, c'est vraiment amusant. Je vous dirais que c'est probablement mon jeu d'Angry Birds favori. Depuis le début, le fait qu'il ait rajouté des cochons, qu'on puisse s'en servir et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Puis pour 99 sous, vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Combien de niveaux sur le jeu de base?
Présentement, si je regarde, là, je vais juste rentrer dedans. Tu vois, on a 20 niveaux c'est séparé comme en deux parties, deux histoires. Celui qui est, comme je te dirais, Naboo Invasion, l'invasion de Naboo. On a 20 niveaux côté oiseau. On a 20 niveaux côté cochon. Puis après ça, quand on va dans la deuxième partie qui est se sauver sur Tatooine, j'ai encore 20 niveaux côté oiseau, 20 niveaux côté cochon. Donc, on a déjà 80 niveaux.
Okay,
80 tableaux à jouer, juste comme ça, plus les tableaux bonus. Puis ça, c'est à part, c'est 20, là, mais ça, c'est à part le petit passage secret qu'on peut trouver qui est deux niveaux de plus. Donc, c'est 22 niveaux par section, c'est-à-dire 44 niveaux par section. On a 22 Jedi, 22 Sith dans la première section, 22 Jedi, 22 Sith dans la deuxième section. Plus les niveaux bonus qui sont plus difficiles encore. Les niveaux bonus, c'est vraiment faut. Il y a certains tableaux. Celui où ce que je suis rendu présentement, là, ça faut être un joueur assez expérimenté pour être capable de le passer. Ça fait comme 10 fois que je l'essaye puis je le passe pas. Okay. Donc, mais c'est vraiment les plus durs. Les niveaux qui appellent récompenses sont plus difficiles que les niveaux réguliers. Là. J'ai passé à travers le jeu assez facilement. J'ai pas trop cherché. Il y a même certains tableaux, des fois rendus au 19e, que je l'ai fait avec un oiseau pour débarrer 3 étoiles. Mais avoir 3 étoiles tout le long, c'est quand même assez difficile. Mais c'est très divertissant, c'est le fun. Les dessins sont beaux, c'est humoristique. C'est encore Rovio qui va avoir un très grand succès. J'aimerais juste qu'il me donne 25 sous par copie vendue.
Oui, que tu as aidé à faire vendre, tu sais.
Ouais, je pourrais prendre ma retraite. Mais non, je vous le conseille. Si vous êtes un peu tanné, un peu blasé des jeux d'Angry Birds, puis vous vous dites, ouais, c'est toujours pareil, c'est ça. Celui-là, tu sais, faites peut-être une exception. Si vous avez déjà tombé en amour avec Angry Birds, on a un mélange d'Angry Birds Space avec des niveaux où on est dans l'espace, des niveaux où on est sous l'eau avec des bulles. Quand on rentre dans la bulle, ça change la dynamique de comment le oiseau ou le cochon se promène. C'est vraiment intéressant. Dans l'espace, ben c'est aussi différent. Là.
Ça amène des dynamiques différentes.
Oui, c'est ça. Ça amène une dynamique différente à certains tableaux. C'est vraiment intéressant. Je vous le conseille fortement.
Alors, 99 sous, 1,99 $, $1.09 si on compte les taxes, bien investis.
Moi, très, très bien investi. Je pense qu'elle aura plus de plaisir avec ça qu'avec Killer is Dead.
Ah, ben là, écoute, ça dépend, là, si... Non, 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 t'as raison.
Je sais.
Non, j'essayais de trouver des arguments et non, il n'y en a pas.
Puis en plus, dans les applications d'Angry Birds maintenant, si vous n'avez pas remarqué, il y a une section pour aller voir des petits films d'Angry Birds, dont la télésérie qui passe à Télétoon le matin, je pense que c'est le samedi matin à 10h, quelque chose. Les dessins animés d'Angry Birds se retrouvent là. Oui, ça va sur Internet, par exemple, pour les jouer en flux continu. Ou en streaming, ceux qui préfèrent le terme anglais. Mais si vos enfants aiment les dessins animés d'Angry Birds, parce que ça parle pas, donc c'est international. Il n'y a pas de langue attachée à ça. Les jeunes peuvent voir les petits films à travers l'application aussi.
Ah, l'art de sauver de l'argent, hein? Faire ça des muets, c'est tellement parfait.
Ouais, mais des oiseaux, théoriquement, c'est pas supposé parler, donc
c'est pas supposé attaquer des cochons, là, en tout cas.
Tu le sais pas. Est-ce que tu vis dans la nature 24 heures par jour?
Non, mais c'est une ferme, il y a des poules, puis il y a des cochons, puis ils s'attaquent pas. Là.
Tu le sais pas, la nuit, quand tu dors, peut-être. Tu sais, c'est un peu comme Toy Story, tu sais.
Ah oui, pareil.
Quand il n'y a pas d'humain, peut-être que ça se bat un contre l'autre.
Hein? J'aimerais ça tellement vivre dans ton monde imaginaire. Toi, il doit y avoir des petits anges tout nus qui lancent des flèches d'amour. Hein? C'est le même que on tombe en couple. Hein? C'est grâce à ça, hein?
Non.
Non?
En tout cas, ben, là, exagère pas, là.
Ben là.
Je parle de cochon versus poule, puis lui commence à me parler de petit ange tout nu.
Ouais,
c'est quand même pas exagéré dans la vie.
Non, hein? Des jouets qui parlent, mais non, on n'exagère pas. Sur ce, écoute, Luc, je vais rappeler aux gens notre concours pour gagner une copie numérique sur PlayStation 3 de Zombie Tycoon 2, dont est venu nous parler Martin Brouard, producteur chez Frima de ce jeu. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, déplacez-vous sur le site de Steam ou encore sur leur application pour pouvoir greenlighter leur jeu Zombie Tycoon 2. Ils ont besoin de votre coup de pouce pour pouvoir être disponible là-dessus. C'est pas une promesse d'achat, soit dit en passant. Vous dites pas « je vais l'acheter ». Non, non, vous dites « ça a le niveau pour être disponible sur Steam ». C'est bien important, là, la nuance. Donc, allez encourager Frima, une entreprise du coin d'ici, là, de Québec, qui se bat contre des géants. Donc, elle a juste besoin d'une petite tape dans le dos de votre part pour pouvoir aller de l'avant avec son jeu pour l'avoir en version PC.
Ouais, puis peut-être si on est assez gentil, on aura peut-être une copie PC à faire tirer à un moment donné.
Éventuellement.
On pourrait toujours être têteux, on sait jamais.
Peut-être.
T'es bon là-dedans.
Si tu savais. aussi, on vous rappelle qu'on cherche des candidats pour remplacer Daniel, quoique celui-ci, peut-être qu'il pourrait revenir à l'occasion dans l'émission, mais avoir un quatrième larron dans cette foire, ça pourrait être intéressant. Si ça vous tente de participer à l'émission, vous écoutez La Réalité Augmentée, vous nous trouvez bon sans bon sens.
Bon, ben là, pousse pas, il n'y aura pas personne qui va appliquer, c'est sûr.
Ben, ou encore, vous voulez rehausser le niveau de La Réalité Augmentée. Hein, là, il va y avoir des participants. Ouais. Vous nous écrivez à podcastrealitéaugmentée@gmail.com. D'ailleurs, pour participer au concours, c'est la même chose. On vous invite. D'ailleurs, le concours, je le rappelle, dites-nous quel jeu vous risquez de gagner grâce à nous dans La Réalité Augmentée. Juste faire sûr que vous participez pas juste parce qu'il y a le mot concours, mais parce que vous savez ce que vous allez gagner. Puis un petit merci en passant, c'est toujours bien apprécié. Luc, on te retrouve où sur le web?
Ben sur Twitter, @scalazormo. C'est à peu près ça. Sinon, ben, il y a mon site pas très très occupé qui est le cjup.com où vous allez pouvoir retrouver Histoire de Gamer ou sur iTunes et tout ça. Puis il y a le site du Podcast Auto. Podcast Auto qui va se terminer au courant du mois d'octobre. Mais en attendant, on a toujours des podcasts qui sortent. Il en reste à peu près deux, puis des essais routiers et tout ça. Si vous aimez les voitures, ben, vous pouvez toujours aller voir cela. Puis toi, mon cher, bon, on va dire ami, là.
Ouais, pour l'occasion, là.
Ouais, vu que le monde nous écoute.
Pour bien paraître, hein.
Oui, c'est ça.
Le paraître, c'est ce qui compte. Je suis celui qui s'occupe du compte officiel de La Réalité Augmentée sur Facebook.
Ça, c'est parce qu'il n'a pas donné le mot de passe à personne d'autre. Hein.
Ouais, parce que tout le monde quitte éventuellement. Il y a juste moi qui est stable dans cette équipe. Donc, sur Twitter, @realitéhog. Mon compte personnel, gang_j_b. Écoute, je suis jasable, même si je dirige ce podcast d'une main de fer. Et à coup de strap. Mais ça, Ça, c'est une autre histoire, ça compte pas.
Ça te prend une grande strap.
Oui, une très grande strap. Donc, si vous voulez jaser avec nous autres, ben, n'hésitez pas, faites-le et participez au concours en grand nombre. Et on vous remercie d'être aussi nombreux à l'écoute de la réalité. Augmenter la techno à un autre niveau. Et on vous dit à une prochaine fois. Salut tout le monde.
Bye.